L'expansion de l'Afrique est une obsession, elle en a fait une mission. Cette phrase pourrait résumer à elle seule le parcours de l'invité de cette interview spéciale. Dès son arrivée au Canada dans la première moitié des années 80, aux côtés de son conjoint, cette femme a toujours été guidée par une seule chose, avancer et réussir. Depuis un an, plus exactement depuis le 29 juillet 2021, un nouveau chapitre s'est ouvert dans sa vie, celui de la politique. Amina Gerba, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Parce que depuis cette nomination au Sénat, les médias, le public, on ne peut pas le cacher, est, je dirais, très heureux de cette nomination. La première question que je vais vous poser, parce qu'il y a eu la pandémie, comment ça va?
Merci Cyril de me recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup et félicitations à Néo Québec. C'est vraiment une plateforme très appréciée. On en a besoin. Je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien parce que la pandémie a été, je crois, un élément moteur dans ma nouvelle orientation de carrière. Donc, je peux dire que ça va.
Prenons le chapitre Afrique Expansion. À la tête d'une agence de communication qui vient en disant « Je veux changer la perception que le Canada a vis-à-vis du monde des affaires, vis-à-vis de l'Afrique. » J'ai dit tantôt que c'était une obsession. Est-ce que le mot est juste? L'expansion de l'Afrique, c'était une obsession. Est-ce que le mot est juste?
C'est vraiment très juste. Très juste, et c'est une obsession, c'est une passion, mais c'est surtout une conviction. Quand j'ai fondé Afrique Expansion en 95, personne ne pouvait vous dire que l'Afrique était un continent. En tout cas, autour de moi, l'Afrique était un pays. Un pays très pauvre. Un pays où règne la famine, où règne la maladie, mais personne autour de moi, en tout cas, ne voyait cette Afrique que moi je connais. Commencer par mon pays, qui est le Cameroun, considéré comme l'Afrique en miniature. Quand je disais que je venais du Cameroun, ben, c'est où? Alors, c'est en Afrique. L'Afrique. Ah bon? Ben, nous, on connaît, pour ceux qui connaissaient le Cameroun, on connaît le Cameroun par le cardinal Léger. Alors, ça, c'est l'image que les gens avaient du Cameroun. Je me suis dit, il faut qu'on connaisse le Cameroun, il faut qu'on connaisse l'Afrique. Et c'est devenu une obsession. L'Afrique n'est pas pauvre, au contraire, elle est immensément riche. Et j'ai tout simplement décidé de prôner par l'exemple.
Mais je voudrais revenir sur quelque chose. J'ai en face de moi aujourd'hui une sénatrice canadienne. Amina Gerba, vous partez d'une famille, et c'est important de le mentionner, de 19 enfants. Issue d'une famille de confession musulmane, polygamique, une famille de Bafia, petite ville dans le centre du Cameroun, Amina Gerba se trouve être la seule parmi près d'une vingtaine d'enfants, donc 6 filles, à être scolarisée, grâce à la bonté d'une grande cousine, mais aussi fort probablement grâce à la clairvoyance d'un père qui accepte que l'une de ses filles, en l'occurrence Amina, quitte Bafia, aille à Yaoundé, la grande ville, la capitale politique du Cameroun.
Quand vous regardez le rétroviseur, qu'est-ce que vous vous dites?
Alors quand je regarde partie de Bafia, dans ce contexte-là, j'arrive à Yaoundé, je tombe enceinte entre-temps. Alors, mon mari obtient une bourse, il arrive au Canada, il me pousse à retourner à l'école. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je prône l'éducation. Je prône le fait qu'il faut envoyer nos enfants à l'école. Il faut les éduquer pour qu'ils voient les choses autrement, qu'ils puissent prendre leur place partout où ils sont, c'est grâce à l'éducation. Je suis convaincue que c'est ça qui m'a donné la force que j'ai aujourd'hui. Et quand je revois, je me dis, est-ce que j'aurais pu faire tout ça si j'étais restée? Est-ce que j'aurais pu faire tout ça si je n'étais pas arrivée dans un pays qui nous donne la possibilité de prendre notre place? Quand je revois tout ça, je me dis, je pense, j'ai eu la chance d'être au Canada aujourd'hui.
Donc, il y a le facteur chance.
Oui. Oui. J'ai eu la chance d'être au Canada, mais j'ai surtout eu la chance d'avoir quelqu'un qui a cru en moi. C'est important. Les gens qui nous entourent, je le dis souvent, sont ceux qui peuvent nous tirer vers le haut ou qui peuvent nous laisser tomber. Puis,
Lorsqu'Amina Gerba arrive au Québec en 1986, elle repart aux études, encouragée par son mari, aime-t-elle à rappeler. Elle s'inscrit alors au cégep à l'âge de 25 ans. Après son DEC, elle va à l'université où elle obtient un baccalauréat en gestion touristique et quelques années plus tard, un MBA en marketing de services.
Entre-temps, vous avez 4 enfants quand même.
Oui.
Voilà.
Alors, il me pousse à retourner au cégep. Pour nos auditeurs, le cégep, c'est un peu aller terminer le lycée. Donc, c'était important de finir mon bac, donc mon DEC au cégep ici. Et quand je finis mon DEC, j'ai un deuxième enfant. Je continue au bac, bachelor, dans le contexte canadien, c'est la licence. Je finis mon bac avec un autre enfant et je continue au MBA. Je finis mon MBA et un an plus tard, j'ai mon dernier enfant. On dirait chaque enfant venait avec un diplôme. Tout ça pour dire que ça prend ce soutien-là. Il a été toujours présent. Faire un MBA recherche à l'époque, avec un mémoire dont ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. J'étais constamment à l'université. Lui, par chance, il était en rédaction de thèse, de doctorat. Donc, il avait plus de temps que moi. Donc, il s'occupait des enfants. Il est celui qui était présent, qui a toujours été présent pour les enfants. Même quand je me suis lancée en affaires, il a toujours été présent. Il m'a toujours encouragée, accompagnée, éclue en mes rêves.
J'entends le parcours de mère, j'entends le parcours d'étudiante et en même temps d'épouse. Et je me dis, mais qu'est-ce qui pouvait motiver cela?
L'ambition, l'envie de réussir ne date pas d'aujourd'hui en fait. Ma cousine qui m'a élevée m'a inculqué le désir de réussir. Elle était entrepreneur en son temps, féministe, donc vraiment très, très, très dynamique et déterminée. Et elle m'a toujours appris qu'il fallait travailler pour réussir. Alors, quand on est immigrant, on arrive dans un nouveau pays, on est néo-québécois, on a cette volonté de réussir. On n'a pas droit à l'échec. Alors, je me suis toujours dit, nous sommes là, nous avons décidé de rester là. C'est un choix, mais c'est un choix qui doit être couronné de succès. Et le succès ne veut pas forcément dire avoir de l'argent. Le succès, c'est avoir un impact réel dans sa famille, dans sa communauté et dans son pays d'origine ou d'adoption. Donc, pour moi, c'est cet impact-là que je cherche, que j'ai toujours cherché. Et je me dis, bon, comment on peut arriver à cela? Donc, c'est d'où vient l'ambition, encore une fois, la volonté de faire mieux de se surpasser, en fait.
Je vais faire un saut dans le temps avec la création de l'Afrique Expansion.
Le nom d'Amina Gerba est indissociable d'Afrique Expansion. Fondée en 1995, Afrique Expansion est un groupe conseil dont l'expertise repose sur la communication et le développement des affaires, notamment entre le Canada et l'Afrique. L'une de ses vitrines est le Forum Africa, le plus grand rassemblement annuel en Amérique du Nord de décideurs politiques et économiques, leaders et entrepreneurs pour la promotion d'opportunités d'affaires entre le Canada et le continent africain.
D'emblée, Afrique Expansion décide d'aller chercher plutôt le sommet, l'institution. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'impact.
En fait, ce qu'on choisit de faire, ce que je choisis de faire, pas moi, avec toute l'équipe d'Afrique Expansion, c'est de montrer qu'on peut faire les choses différemment. Faire comme les autres, en fait. Et comme les autres, pour moi, étant faire comme ceux qui sont déjà établis. Donc, j'ai été inspirée par ceux qui étaient déjà en communication. J'ai été inspirée par, encore une fois, mon conjoint qui est un journaliste, donc très connu aussi. Et on s'est dit, ben, il ne faut pas faire les choses à moitié. Si on doit montrer que l'Afrique est un continent avec des ressources, il faut qu'on ait un magazine. Un magazine économique, en fait, qu'on ait un outil de communication qui permette de donner l'information économique. C'est après qu'on trouve le nom magazine à cela. Donc, l'outil de communication est né à la suite d'un événement qu'on organise. On organise à Montréal une mission commerciale du Cameroun. Et cette mission-là fait venir une vingtaine de chefs d'entreprise camerounaises. Deux ministres, un ministre de l'Industrie et un ministre du Tourisme. C'est passé totalement, totalement inaperçu. Aucun média qui était pourtant invité, aucun média local, conventionnel, n'a fait mention de cette mission. Et même un de nos médias de la communauté qui était déjà là, quand il a interviewé un de nos ministres, n'a même pas mentionné, je ne vais pas mentionner ce média aujourd'hui, mais il était déjà là à l'époque, il n'a même pas fait mention du contexte dans lequel cette délégation est venue. Donc c'est ça qui nous a suscité, c'est ça qui nous a poussé à créer notre propre média. Donc, c'est comme ça qu'est né Afrique Expansion Magazine, MAG, à l'époque. D'ailleurs,
C'est là que j'ai fait, je dois le dire, quand je suis arrivé, c'est là que j'ai eu ma toute première pige au Canada en tant que journaliste, parce que je vais juste prendre une petite seconde, question de dire que le mari dont on parle, Gerba Malam, est celui qui, moi, je l'entendais à la radio à l'époque au Cameroun, puis c'est... Je le dis là vraiment publiquement, c'est celui qui m'a inspiré à aller dans ce métier-là.
Merci pour le témoignage. Donc, je me dis, j'ai à côté de moi un journaliste qui est connu, qui connaît son métier et qui déplore le fait que cette mission, quand même assez importante, on a eu un grand déjeuner-conférence ici à l'hôtel Sheraton où on a invité... la communauté d'affaires de Montréal, mais que personne n'ait fait mention de cela a été vraiment un coup. En fait, pour nous, ça nous a donné un coup d'envoi. Donc, on a décidé de faire le premier numéro d'Afrique Expansion MAG avec comme thème central la mission du Cameroun. Donc, on a vraiment mis le Cameroun à l'honneur, on a parlé du Cameroun, des participants venus du Cameroun, on a mis le profil de chacun, et c'est là où les participants, les 200 participants qui étaient présents, ont découvert le Cameroun. On a fait 250 copies qui ont été distribuées aux participants en primeur et aux ambassades. Donc, quand on a vu l'impact que ce feuillet d'informations de 12 pages a eu auprès de la communauté d'affaires, on s'est dit, il y a quelque chose à faire. Il y a un besoin d'informations économiques et on a lancé la deuxième édition. Deuxième édition, on est passé à 500 copies. C'est parti en Afrique. Et troisième édition, 5000 copies, on était déjà en kiosque. Donc, tout est parti de ce besoin. C'est toujours comme un besoin de montrer et d'informer, de former la communauté d'affaires. Et c'est ça qui a toujours été le leitmotiv de Afrique Expansion. Voilà.
Najaba, quiconque vient au Canada, lorsqu'il veut parler affaires entre l'Afrique et le Canada, le premier nom qu'il entend est le vôtre. Aujourd'hui, on est en 2022, quand on en parle, ça paraît peut-être facile. Mais j'imagine à cette époque-là, donc on parle des années 95, vraiment on approche à peine les années 2000, il y a 22 ans, vous arrivez, vous êtes femme, noire, vous rentrez dans des milieux d'affaires avec ce fameux mot, et vous allez comprendre où je vais avec ça, le fameux réseau. Qu'est-ce qui vous motive à aller dans ces milieux où le mot diversité n'existe pas? On parlait même pas encore de diversité, ça ne c'est un mot qui n'existait pas. Comment vous rentrez? Je voudrais, en fait, que vous nous expliquiez un peu. Oui, c'est ça, qu'est-ce qui vous motivait? Est-ce que c'était, ben voilà, j'y vais, parce que c'est, je sais pas, je suis quelqu'un, je pousse les portes. Qu'est-ce qui vous motive? Comment vous rentrez là-dedans? Qu'est-ce qui vous guide?
Très bonne question. En fait, j'arrive, je viens d'une grande famille quand même, où j'étais bien entourée. J'arrive au Canada, je me retrouve toute seule, pour une fois. Mais quand je rentre au cégep, je me rends compte que je me retrouve entourée de jeunes. Et ces jeunes-là deviennent mes amis parce que moi, je suis quelqu'un de très... très spontané, et je me fais des amis. J'arrive à l'université, je me fais des amis. Mais arrivé à l'université, je me rends compte, dans ma formation qui est en marketing de services, il faut préciser, je me rends compte que pour aller de l'avant, il faut développer le réseau. J'entends pour la première fois le mot réseau dans mon cours. Et je me rends compte que ce réseau-là se fait d'abord dans un cercle très réduit, mais en même temps, ça se fait à travers les associations. Donc, je m'inscris dans toutes les associations parce que j'ai entendu parler de réseau et j'ai commencé à comprendre que c'est ce réseau-là qui t'amène à connaître d'autres personnes, à apprendre des choses, à voir l'information et à s'intégrer. Pour qu'on s'intègre dans notre société, ça prend la connaissance des gens qui composent la société. Donc, il faut aller vers eux. Et aller vers eux, pour moi, c'était m'inscrire à la Chambre de commerce, m'inscrire dans le réseau des femmes d'affaires du Québec, m'inscrire dans tout ce qui existait autour de moi.
Est-ce que vous êtes acceptée dès le début quand vous arrivez?
On n'a pas besoin d'être accepté. J'étais là, souvent la seule noire dans la salle. Écoute, dans une réunion, dans une conférence de la Chambre de commerce, 500 personnes, souvent j'étais la seule ou l'une des rares noires dans la salle. Et tu arrives dans une salle comme celle-là, tu prends ton courage à deux mains pour passer ta carte d'affaires. Et quand tu donnes ta carte d'affaires, Afrique Expansion, c'est quoi ça? Il y en a qui tournent le dos, il y en a qui partent. Et tu persistes. Et c'est ce que j'ai fait, la persévérance et la présence. Je dis toujours, il faut non seulement persévérer, mais il faut toujours être présent. Donc je prends le réseau, mais le réseau, c'est être dans ce réseau et rester visible. On est des minorités visibles, il faut...
Rester visible. Ouais. Vous avez ouvert des portes, mais je dois mettre quelque chose à votre actif, c'est que vous les avez maintenues ouvertes pour ceux qui viennent après. Parce que on peut ouvrir une porte, une fois qu'on est là-dedans, on laisse la porte se refermer, mais il faut être capable de maintenir la porte ouverte pour ceux qui viennent après. Ce que vous avez fait, Afrique Expansion a vraiment, comme voilà, je vais le dire comme ça, a pris son expansion. Il y a eu plusieurs délégations qui sont venues. Les rapports entre les hommes d'affaires canadiens et les hommes d'affaires africains ont changé. Je pense qu'on a vu à Montréal je veux dire, tout ce que l'Afrique compte d'industriels, tout ce travail vous a valu en 2014 une reconnaissance officielle, institutionnelle au Québec, chevalière de l'Ordre national du Québec, ouais, c'est ça, 2014. Je sais pas si c'est une épinglette, là, on vous la met, vous vous dites, j'ai réussi, ou vous dites, c'est une étape.
Déjà, on est surpris d'être sur cette liste-là parce que je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc, c'était pas un objectif, c'était pas pour moi quelque chose que j'attendais. Mais quand on arrive là, on s'est dit, finalement, ce qu'on a fait a eu un impact, ce qu'on a fait est reconnu, donc il faut continuer. Il faut continuer à avoir cet impact-là. Depuis 2014, je pense, ce que j'ai commencé à faire, c'était vraiment d'amener les gens à comprendre que quand on travaille, c'est pour avoir un impact dans sa communauté. C'est pas pour forcément avoir la célébrité, devenir célèbre et tout. C'est pour cet impact-là et j'aime bien quand tu dis tu as ouvert les portes. J'ai ouvert les portes. Je pense que c'est important d'ouvrir les portes. Quand on avance, c'est bien d'amener avec nous les autres. C'est ça qui fait que tu es poussé encore plus loin dans ce que tu fais. C'est ça qui fait qu'on te remarque même parce que ce sont ces gens que tu amènes avec toi qui sont tes premiers supports, si je peux dire. Donc, si tu avances tout seul, bon, il y a un proverbe qui est devenu célèbre.
Seul, on avance plus vite. Ensemble, on va plus loin.
Moi, je le vis. Et c'est de vivre sa passion, de servir les autres, d'amener les autres à grandir, parce que c'est ça qui me rend heureuse. C'est ça qui me permet de dire « j'ai eu cet impact tant recherché ».
Là, moi, j'ai une question peut-être plus précise. Pourquoi Amina Gerba, femme d'affaires prospère, femme d'impact avec Afrique Expansion, qui devient, je disais qu'on allait sauter les étapes parce qu'il y a tellement de choses, mais qui est aussi la présidente du conseil d'administration d'Entreprendre ici. Je veux entendre quelques mots sur Entreprendre ici et pourquoi, à un moment donné, vous acceptez cette mission-là, parce qu'on a beaucoup parlé Afrique Expansion. Donc, les gens ont dit, oui, Amina Gerba, c'est le pont entre l'Afrique et le Canada. Et Entreprendre ici est vraiment pour les entrepreneurs qui sont ici, oui, issus de la diversité.
Pour prendre notre place dans cette société d'accueil, c'est par l'entrepreneuriat. Et lorsque le gouvernement du Québec, plus précisément, Dominique Anglade, ministre de l'économie, m'a approché pour me faire cette proposition. Je me suis dit, c'est un rêve pour moi parce que je voulais voir comment, je cherchais à comprendre comment amener les entrepreneurs, ou plutôt nos communautés, à s'intéresser à l'entrepreneuriat. Et je me suis dit, à travers Entreprendre ici, j'allais pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que la mission était vraiment de sensibiliser les entrepreneurs de la diversité. Elle est toujours présente, cette mission-là. Sensibiliser, soutenir, accompagner, mais donner un coup de main financier aussi. Comme vous savez, Entreprendre ici remet chaque année 25 bourses d'honneur de 25 000 $. C'est quelque chose que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancée.
J'imagine.
L'entrepreneuriat, c'est vraiment la porte d'entrée dans le milieu des affaires ici pour nos communautés. Et c'est l'entrepreneuriat qui crée de la richesse pour nos communautés. Donc, c'est ça qui m'a amené à accepter ce mandat-là. Mon mandat était de 4 ans. J'ai fait 3 avant de passer à autre chose.
Vous écoutez SIEC, le podcast. Femme d'affaires accomplie et d'influence avérée, Amina Gerba continue donc depuis bientôt 3 décennies d'avancer. Le 29 juillet 2021 marque un tournant dans la carrière d'Amina Gerba. C'est au sein de la Chambre haute du Parlement canadien, le Sénat, qu'elle a choisi de continuer d'avancer. Le Sénat. Un lieu idéal, selon un de ses amis qui lui dit « Je t'y vois bien, tu y apporteras ta voix, ton impact, et où ce que tu fais sera beaucoup plus reconnu. » Alors Amina Gerba a dit oui, mais au fait, Amina Gerba, comment apprend-on qu'on est nommée sénatrice?
Je ne me suis jamais vue sénatrice. J'ai jamais pensé à cette carrière-là. Une petite fille de Bafia, comme on disait, à la Chambre haute du Canada. Vous ne dites pas non si vous voulez avoir un impact. Vous ne dites pas non si vous voulez servir encore plus. Moi, j'ai toujours servi. C'est pour ça que je me suis peut-être spécialisée en marketing de services professionnellement, mais je pense que je suis née, le service est inné en moi. Inné parce que je pense que, je reviens encore sur l'impact, pour avoir un impact, il faut servir, il faut avoir ça comme passion, le service. Et j'ai accepté, sans savoir ce qui m'attend, j'ai accepté d'aller au Sénat pour apporter ma voix comme le Premier ministre a demandé et pour continuer à faire ce que je fais. Sauf que je le fais maintenant en étant assise sur un siège qui me permet de regarder les projets de loi avec des lentilles de nos communautés, les lentilles de notre écosystème, les lentilles de ce que j'ai fait par le passé et ce que je souhaite et comment je souhaite voir le Canada demain. Donc ça n'a pas de prix.
Cet entretien que nous avons, il arrive au bout de un an de service ou un an de siège au Sénat et je dis encore vraiment merci d'avoir accepté. J'ai essayé de regarder en un an 3 comités.
Membre du comité des affaires étrangères et commerce international, membre du comité des droits de l'homme, membre du comité des finances nationales, membre du caucus parlementaire des Noirs, sans parler des implications que cela a à l'international.
C'est important pour moi, c'est important, c'est pour ça que j'ai accepté d'aller continuer à faire ce que je faisais. Sinon, je ne serais jamais partie au Sénat. Parce que si vous allez au Sénat du Canada et que vous n'avez pas d'objectifs, vous n'avez pas de projet, vous allez vous ennuyer. Mais les gens qui ont un projet, qui ont un enjeu important, c'est la place où il faut être. Et c'est ça qui se voit dans mes interventions, parce que j'estime que le Canada était présent en Afrique. Est présent quand même. On sait qu'il appuie beaucoup la Banque africaine de développement, mais le Canada n'est pas présent au niveau économique. Et l'Afrique aujourd'hui, et c'est mes discours au Sénat, c'est de montrer que l'Afrique n'a plus tellement besoin d'aide. L'Afrique a besoin de partenaires gagnants-gagnants, de partenariats gagnants-gagnants. Et aller en Afrique pour distribuer des millions de dollars, c'est bien. Ils vont pas dire non, ils vont prendre. Mais aller en Afrique, main dans la main avec la communauté des affaires, c'est ce que le monde entier fait. C'est ce que les grands pays font aujourd'hui. Ils vont en Afrique pour investir avec les Africains. Ils vont en Afrique pour le transfert de leur savoir-faire. Et le Canada a un savoir-faire dans tous les domaines prioritaires pour l'Afrique. Donc, pour moi, c'est important de rappeler cela. L'Afrique est ouverte aujourd'hui à de nouveaux partenariats.
Quel est le rôle que peut jouer la diaspora africaine aujourd'hui dans la mise en route, quand même, si je peux m'exprimer comme ça, de cette Oui, de cette relation-là, en termes de manière concrète.
La diaspora est devenue la sixième région de l'Afrique. Et vous savez que l'Afrique est en voie d'unification. À travers la ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Et en étant la sixième région, la diaspora a un rôle majeur à jouer dans cette ZLECAF. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, évidemment, c'est en tant qu'investisseur. Si un membre de la diaspora aujourd'hui décide d'aller investir dans n'importe quel pays en Afrique, il sera considéré comme un Africain. Et quand je parle de la diaspora, c'est pas juste les Africains nés en Afrique, hein. C'est tous les Afro-descendants qui se considèrent, un peu soit-il, Africains. La porte de l'Afrique leur est ouverte aujourd'hui et ils peuvent investir dans n'importe quel pays en Afrique. Donc, c'est une opportunité pour les membres de la diaspora, pour aider leur pays à se développer. On a appris des choses dans nos pays d'adoption. On a une nouvelle façon de faire des choses qu'on peut ramener chez nous. On a des atouts majeurs. Je dis pas que ceux qui sont restés n'ont pas ces atouts-là. L'atout majeur qu'on a, c'est qu'on a le réseau. On a le réseau de notre pays d'adoption qui nous accompagne, qui nous appuie. Donc, c'est pour ça que je tiens à ce que le Canada appuie les investisseurs canadiens. Et dans les investisseurs canadiens, j'inclus les membres de la diaspora. Donc, pour moi, la diaspora a une opportunité en or pour retourner investir dans son pays, dans leur pays, peu importe les pays.
Je vous entends parler et je me dis, ben, finalement, elle ne s'ennuie pas au Sénat, elle est...
Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce qu'au Sénat, ce qu'on fait... En fait, le Sénat, c'est quoi? Le Sénat, c'est la chambre qui donne un second regard objectif et sobre au projet de loi. Les projets de loi sont votés par la Chambre des communes. Ils nous arrivent au Sénat. Donc, nous, en tant que sénateurs, notre travail consiste à relire, sans être juriste, relire les projets de loi avec les lentilles de nos vécus, les lentilles de ce que nous voulons pour le pays. C'est ce que nous faisons et on le fait dans le cadre des comités. Vous l'avez dit, je suis, je crois, dans les trois comités les plus importants du Sénat, selon moi. Affaires étrangères et commerce international. Vous savez, c'est là où on traite de tous les projets de libre-échange, de tous les projets de l'OTAN, comme on sait maintenant ce qui se passe dans le monde. C'est là où on parle des relations du Canada avec les autres pays. C'est là où on décide des orientations stratégiques du Canada et de l'impact du Canada dans le monde. Que dire du Comité Finances Nationales qui définit nos budgets, qui définit les mesures qui ont un impact réel dans le vécu quotidien des Canadiens. C'est un privilège incroyable. Et le Comité droits de la personne, partout on dit droits de l'homme, venant d'un pays africain, connaissant tout ce qu'il y a aujourd'hui comme problème au niveau, que ce soit toutes sortes de droits, passent par ce comité-là. Donc, c'est un comité qui me touche beaucoup, particulièrement. Et je vais vous dire, en un an, j'ai déjà réussi à faire passer un amendement, parce que les sénateurs, il faut le dire, ont aussi la possibilité de proposer des projets de loi privés, de faire des amendements, de susciter des études. Donc, dans ce comité en particulier, j'ai proposé déjà un amendement qui est passé. Donc, on a la possibilité en tant que sénateur d'avoir un impact réel. Et je pense qu'aujourd'hui, après un an, je regarde ce que j'ai eu à faire. Je me dis, j'ai eu raison d'être là et le chemin... ne sera pas facile parce que c'est un apprentissage quotidien, c'est un milieu que je connaissais pas, mais que j'ai du plaisir à connaître.
Ça va avec sûrement des responsabilités. Est-ce que c'est... Ça donne quoi? Ça motive? Ça donne... Ça pèse par moment? Ou comment vous ressentez ça?
Ben, c'est sûr que c'est un poids important qu'on porte quand on accepte ce rôle-là. Un poids important parce qu'on devient une personnalité publique. Réellement, même si on l'était déjà.
C'est ce que j'allais dire, vous étiez déjà.
On était personnalité, mais on gérait, je gérais ma propre image. Là, en tant que sénateur, je ne gère plus mon image. Mon image ne m'appartient plus. Mes gestes ne m'appartiennent plus. Mes décisions ne m'appartiennent, bien sûr, mais ont un impact réel dans le vécu des gens. Parce que vous savez quoi, quand je vote pour un projet de loi, et je pense que j'ai eu déjà voté 5 ou 6 fois, c'est public. Si vous allez sur mon site au niveau du Sénat, vous allez savoir que j'ai voté non pour tel projet de loi, j'ai voté oui pour tel projet. Ça vous expose. Il y a des gens qui vous écrivent. La population suit ce que vous faites. Ce n'est plus juste la communauté. Là, on passe à un autre niveau et c'est un poids immense. Mon email est public. Je reçois des dizaines de courriels par jour. Des gens qui me disent, il y a tel projet de loi, voilà pourquoi vous devez voter oui, voilà pourquoi vous devez voter non. Et ça, il faut être conscient du fait que vous n'êtes plus votre propre patron, vous êtes au service d'une nation et que les populations comptent sur vous pour des décisions importantes qui auront un impact réel dans leur quotidien. Donc ça, c'est un poids, effectivement.
J'ai assisté à un événement privé il y a un certain temps où quelqu'un, une personnalité publique, parlait de vous en disant, en vous côtoyant, on apprend que espérer n'est pas un vain mot, il faut le garder, que croire n'est pas un vain mot, que gagner est quelque chose de tout à fait légitime, de possible. C'est-à-dire que, de manière globale, être, vous côtoyer enlève tout, je ne dirais pas tout doute, mais on se dit qu'on peut y arriver, on peut réussir. La personne qui le disait, c'était Daniel Henkel, je pense qu'il est relativement connu par beaucoup de personnes. Amina Gerba, le mot échec, on a l'impression que votre parcours est pas linéaire, mais il ne fait que monter. Est-ce qu'il y a des échecs dans votre vie? Est-ce que vous doutez? Est-ce qu'il y a des échecs?
La réussite est la somme de tous les échecs que vous arrivez à positiver. Si vous apprenez de vos échecs, vous pouvez être certain que vous allez réussir. Donc oui, j'ai eu des échecs, bien sûr, toujours. Mais à chaque fois, tu te dis, j'ai pris un risque, on prend des risques et on échoue. Mais pour moi, l'échec n'est pas la finalité. L'échec, c'est plutôt une étape qui te permet d'aller encore mieux, d'apprendre mieux. Moi, je vis dans les rêves. Hein? Et quand on rêve beaucoup, c'est sûr qu'à un moment donné, on s'est dit, est-ce que c'est pas trop, non. Le doute dans le sens de se remettre en question, oui, mais pas dans le sens de je recule. Je me dis, il faut avancer et il ne faut pas laisser la place au doute.
Ouais. J'ai juste envie de dire, j'ai dit que c'était une étape, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Ou, je vais le dire différemment, pour vous, l'ambition que vous avez naturellement, la prochaine étape, c'est quoi? Vous voyez où? Au-delà de ce que le destin aura décidé pour vous, je sais que vous êtes très croyante, au-delà de ce que Dieu aura décidé pour vous, vous voyez où dans 10-20 ans?
Vous savez que le Sénat, c'est juste à 75 ans. Alors, pour le moment,
je ne suis pas sûr que nous voulons que vous restiez au Sénat jusqu'à 75 ans. Là, je parle pour nous, hein, mais...
Pour le moment, je sais que le Sénat, c'est juste à 75 ans. Alors, laissez-moi le temps de compter les années au Sénat et souhaitez-moi beaucoup de sagesse parce que quelqu'un m'a dit, le Sénat, c'est la chambre des sages. Alors, je me souhaite beaucoup de sagesse au Sénat pour mieux servir les Canadiens et servir le monde.
Aminé Gerba, merci beaucoup. Vraiment, merci de ce privilège, de cet honneur que permet. Je vais finir avec le tu, si on me le permet, de cet honneur, ce privilège que tu m'as accordé, que pour cette entrevue, qui tombe un peu au premier anniversaire de ton mandat au Sénat, que tu aies choisi Néo-Québec, que tu aies choisi de me parler, j'en suis très 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 flatté. Les gens ont compris qu'effectivement, je suis pas loin à côté. Puis te dire la fierté vraiment de nombreuses personnes, de néo-québécois qui te voient aller et se disent, voilà quelqu'un d'inspirant, qui laisse des empreintes où on essaye quand même de poser les pas, même si les pas sont très grands. Et puis, je voulais finir avec ça. Te dire merci, puis tu as souhaité qu'on te laisse vivre le Sénat. Voilà, on te laisse donc vivre au Sénat. Merci beaucoup.
Ben moi, je vais te souhaiter, Cyril, de continuer à persévérer. Je t'ai vu commencer et j'ai vu tous les pas que tu as essayés et tu as aussi réussi à avancer, à persévérer. Et évidemment, travailler très fort pour arriver là. Merci de faire ce que tu fais pour faire briller les néo-québécoises et québécois. C'est important pour nous d'avoir des plateformes comme Néo-Québec au Québec. Et aujourd'hui, avec le virtuel, tu nous propulses dans le monde et c'est important. C'est important. Je sais qu'il y a beaucoup qui croient toujours à l'adage que pour vivre heureux, vivons cachés. Ce que tu fais, tu ressors les meilleurs succès du Québec et bravo.
Merci beaucoup. Vraiment, merci. J'espère que vous avez pris le même plaisir que moi à suivre cet entretien. J'espère que vous allez partager, comme on dit, partager cet entretien. Puis on se dit, nous, à une prochaine fois.
Mon nom est Cyril Ekwala.